aujourd'hui à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Les titres en ce mercredi 25 avril 2018. Nouvelle attaque à djihadistes dans le nord du Burkina. 3 personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées par balle. À Madagascar, des milliers de partisans de l'opposition continuent de défier le gouvernement.
Jusqu'à ce qu'il y ait une solution au conflit préélectoral, il faut bien que l'opposition occupe aussi le terrain.
Les États-Unis réduisent le personnel de leur ambassade à Bangui.
On ne peut pas résoudre le problème ou les questions de RCA dans l'RCA.
Devant le Congrès américain, le président français dénonce la guerre commerciale et le nationalisme. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives dans 10 minutes. Au Burkina Faso, 3 personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées hier soir par balle à Niafo, dans le nord, une zone en proie à de fréquentes attaques djihadistes. Des fidèles musulmans revenaient de la mosquée, des individus armés ont ouvert le feu. Des éléments du groupement antiterroriste ont entrepris un large ratissage dans la commune. Hier, le tribunal de Djibo a fermé jusqu'à nouvel ordre pour raison de sécurité. La région du nord du Burkina, frontalière du Mali et du Niger, subit des attaques qui ont déjà causé la mort de plusieurs civils. En République centrafricaine, l'ambassade des États-Unis à Bangui a décidé de réduire son effectif. Il s'agit d'une mesure temporaire intervenue alors que le pays fait face depuis quelques jours à une montée de tensions. Sur place à Bangui, le compte-rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
Cette réduction qui concerne uniquement le personnel expatrié n'a rien à voir avec la situation sécuritaire actuelle du pays. Selon le chargé d'affaires David Brownstein, il s'agit d'une décision temporaire qui n'affecte pas le fonctionnement de l'ambassade. Même si la représentation américaine ne lie pas cette décision au regain des tensions dans le pays, l'annonce inquiète de plus en plus dans la capitale. Pour David Brownstein, les États-Unis ont un objectif clair, sortir la République centrafricaine de l'instabilité avec la contribution de ses voisins.
On ne peut pas résoudre le problème ou les questions de RCA dans l'RCA. Nous avons une stratégie d'engager les pays voisins et les autres pays qui sont impliqués ici. Et notre position reste claire et ferme. Chaque pays doit jouer un rôle positif ici. Un pays de plus en plus déstabilisé peut déstabiliser la région.
Depuis le départ l'an dernier de l'ambassadeur Jeffrey Hawkins, l'ambassade américaine à Bangui est gérée par un chargé d'affaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la voix des sans-voix exhorte le gouvernement à restituer le corps de l'opposant Rossi Mukendi, tué il y a 2 mois lors de la répression d'une marche anti-Kabila à Kinshasa. L'ONG de défense des droits de l'homme, en outre, a dénoncé ce qu'elle appelle les intimidations et menaces contre la famille du défunt de la part d'inconnus se réclamant des services de sécurité. Le bureau des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC devait rencontrer ce mercredi la famille du défunt. 5e jour de manifestation à Madagascar où des milliers de partisans de l'opposition se sont rassemblés ce mercredi devant la Cour constitutionnelle à Antananarive. Ils continuent de réclamer le départ du président Abdourahmane Dia.
Comme pour les jours précédents, les manifestants se sont d'abord réunis sur la place du 13 mai au centre de la capitale. Ensuite, quelques milliers de personnes ont mis le cap sur le siège de la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire du pays. Plusieurs députés qui les accompagnaient sont sortis de la foule pour déposer une requête en destitution du chef de l'État à la Cour sous haute protection policière. Après le dépôt de leur demande, les manifestants sont repartis vers la place du 13 mai, théâtre de tous les grands rassemblements politiques de l'histoire récente de la Grande Île. À 7 mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition occupe les rues depuis samedi pour dénoncer les nouvelles lois électorales. La Cour constitutionnelle malgache doit se prononcer d'ici jeudi sur la légalité de ces textes qui durcissent notamment les conditions de révision des listes électorales et de candidature à la magistrature suprême.
En Afrique du Sud, au moins 10 000 personnes sont descendues dans la rue lors d'une grève générale contre l'introduction d'un salaire minimum à 20 rand par heure, considéré comme salaire d'esclave. Le salaire minimum, une première dans le pays, doit entrer en vigueur au 1er mai, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa. Le président a fait de la relance de l'économie l'une de ses priorités. Les grévistes protestent également contre l'introduction prochaine de nouvelles lois qui limitent, selon eux, le droit de grève. Toujours en Afrique du Sud, la police annonce avoir retrouvé le corps sans vie d'un botaniste à la double nationalité britannique et sud-africaine. Il aurait été enlevé puis assassiné par un couple présenté comme ayant des liens avec le groupe État islamique. Âgé de 72 ans, Rod Saunders avait disparu en février dernier avec son épouse Rachel alors qu'il se trouvait au KwaZulu-Natal. La police poursuit les recherches pour retrouver l'épouse Rachel Saunders. Les États-Unis et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants en Tanzanie à faire preuve de prudence. La police a promis de punir sévèrement ceux qui répondront à un appel à manifester demain jeudi contre le gouvernement du président John Magufuli. L'appel a été lancé par les activistes tanzaniens vivant à l'étranger à la date anniversaire de l'union entre la Tanzanie continentale et l'archipel de Zanzibar le 26 avril 1964. Certains commandants de police ont affirmé que ceux qui oseront manifester en sortiront invalides. Au Niger, la crise en cours depuis des mois, l'université de Niamey touche désormais les lycées et collèges du pays. L'Union des scolaires nigériens, qui recrute du primaire jusqu'à l'université, a lancé une grève illimitée depuis vendredi dernier pour exiger l'annulation de l'exclusion en mars de 5 étudiants, la réouverture du campus fermé depuis le 18 avril et l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité de l'université. En Égypte, 3 soldats et 30 djihadistes sont morts la semaine dernière dans des opérations militaires dans le Sinaï. Les forces armées mènent depuis le 9 février une vaste opération. Parmi les djihadistes tués figure, d'après l'armée, Nasser Abu Zakoul, présenté comme l'émir du groupe État islamique du centre du Sinaï. Le président Abdel Fattah al-Sissi, récemment réélu, a dernièrement prolongé le délai qu'il avait donné à ses forces de sécurité pour rétablir la sécurité dans le Sinaï. La garde à vue de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré a été prolongée ce mercredi à Nanterre. Le milliardaire fait l'objet d'une enquête sur des soupçons de corruption entourant l'obtention par son groupe de concessions portuaires au Togo et en Guinée. 2 cadres du groupe sont également entendus depuis hier. Le responsable du pôle international de Havas, Jean-Philippe Doran, et le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix. Francis Pérez, président de PFACO, groupe spécialisé dans l'hôtellerie et les jeux et très implanté en Afrique, est également gardé à vue depuis hier. C'est notamment en enquêtant sur ce dernier qui entretient des relations étroites avec Jean-Philippe Doran que la justice française a resserré ses investigations sur les activités africaines de Vincent Bolloré.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français a dénoncé ce mercredi devant le Congrès américain la tentation de nationalisme et d'isolationnisme. Lors d'un discours, Emmanuel Macron a demandé aux États-Unis de réinventer le multilatéralisme, chaudement applaudi par les sénateurs et les représentants. Il a également répété que sur le climat, il n'y avait pas de planète B, une critique implicite contre le retrait américain de l'accord de Paris. Le président Macron a assuré qu'une guerre commerciale entre alliés n'est pas cohérente, en référence à la guerre commerciale qui pointe derrière les menaces protectionnistes du président américain Donald Trump. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la tranche magazine. Téhéran et Moscou rejettent tout nouvel accord sur le nucléaire iranien, fustigeant les propos des présidents Donald Trump et Emmanuel Macron, qui ont annoncé hier leur intention de travailler ensemble sur un nouveau texte. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Avec un accord d'un pays européen, ils disent « Nous voulons décider pour un accord conclu à 7. Pourquoi faire? De quel droit ?» a réagi le président iranien Hassan Rouhani. Il a ajouté que cet accord a permis de faire tomber les accusations et prouver que les États-Unis et Israël ne disent pas la vérité. Pour sa part, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré que l'accord de 2015 est sans alternative. Même réaction de Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, qui a estimé que cet accord doit être préservé. La Chine l'Ukraine et la Russie ont prévenu qu'elles bloqueraient toute tentative de saboter l'accord sur le nucléaire iranien. Ce texte est le fruit de négociations entre l'Iran et le groupe 5+1, Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie. Il prévoit une levée progressive et conditionnelle des sanctions imposées à l'Iran en échange de garanties que Téhéran ne se dotera pas de l'arme atomique.
En Afghanistan, les talibans ont lancé leur offensive de printemps, rejetant ainsi les appels du gouvernement à entamer des négociations de paix. Nathalie Barge.
L'opération Al-Khandaq ciblera les forces américaines, leurs agents de renseignement et leurs partisans internes, ont annoncé les talibans. Il s'agit en partie d'une réponse à la nouvelle stratégie pour l'Afghanistan mise en place par le président américain Donald Trump, qui a accordé plus de latitude aux forces américaines pour combattre les insurgés, ont-ils indiqué. Selon eux, la présence de bases américaines dans le pays mine toutes les chances de paix et contribue à prolonger la guerre. Les talibans sont sous pression pour accepter une offre de négociation de paix lancée par le président Ashraf Ghani. Ils ont rejeté cette main tendue et veulent des négociations directes avec les États-Unis, qui ont écarté toute discussion avec les djihadistes. Dimanche, 60 personnes ont été tuées et 129 blessées par une attaque kamikaze près d'un centre d'enregistrement électoral à Kaboul. Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Nigeria est le pays d'Afrique subsaharienne qui a reçu le plus d'argent envoyé par sa diaspora en 2017. La Banque mondiale parle de 22 milliards de dollars. L'Égypte arrive en deuxième position avec 20 milliards de dollars, puis le Maroc qui a enregistré 7 milliards et demi de dollars. Le Ghana, le Sénégal, l'Algérie et le Kenya ont reçu chacun entre 2 milliards au plus. Viennent ensuite la Tunisie, l'Ouganda et le Mali avec moins de 2 milliards. Enfin, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Libéria et le Burkina Faso sont sous la barre d'un milliard de dollars. Ces transferts des migrants représentent une part importante du produit intérieur brut du Libéria, des Comores, de la Gambie, du Lesotho, du Sénégal et du Cap-Vert. La reprise de l'économie mondiale a permis cette transaction qui a atteint 38 milliards de dollars. La South African Airways demande au gouvernement 400 millions de dollars pour régler sa dette et soutenir ses coûts de fonctionnement. La recapitalisation permettrait à l'entreprise de maintenir à flot la compagnie et de rembourser une dette de plus de 737 millions de dollars dont l'échéance est fixée pour l'année 2019. La direction de la compagnie vise aussi à enclencher un plan de redressement financier pour réduire la dépendance à l'égard du gouvernement et atteindre un équilibre financier d'ici à 2020. Le Zimbabwe renonce à obliger les entreprises minières à s'introduire sur la bourse de Harare.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pineux. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Deuxième demi-finale de la Ligue des Champions.
Coup d'envoi 18h45, temps universel entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est une affiche de gala digne d'une finale entre deux institutions centenaires qui cumulent, tenez-vous bien, 17 Ligues des Champions, 12 pour le Real, 5 pour le Bayern. Touché à la cuisse, le latéral gauche Alaba, l'international autrichien, ne jouera pas avec le Bayern, tout comme les blessés de longue date, Manuel Neuer, Kingsley Coman ou encore Arturo Vidal.
Tout le monde ne parle que de Mohamed Salah.
24 heures après sa performance magistrale avec Liverpool, un doublé et deux passes décisives qui lui ont permis de donner la victoire 5-2 contre l'AS Rome. La planète football est émerveillée par l'attaquant égyptien de 24 ans dont le nom circule de plus en plus pour le Ballon d'Or.
Le tirage sort des 16e de finale de l'Arab Champions Cup.
Avec un duel entre Al Ahly de Tripoli et le Wydad de Casablanca, c'est l'affiche de ces 16e de finale. À noter le Zamalek d'Égypte qui affrontera Al Qadisiya du Koweït ou encore Sétif d'Algérie face à Al Ain des Émirats Arabes Unis.
Et Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State s'est qualifié pour le deuxième tour des playoffs NBA en s'appuyant sur un Kevin Durant décisif dans la victoire contre San Antonio, 99-91. Golden State retrouvera en demi-finale de la conférence Ouest les Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui ont balayé Portland, 4-0. À l'Est, Philadelphie a également assuré sa place dans le dernier carré de cette conférence grâce à sa victoire 104-91 contre Miami. Les Sixers affronteront au prochain tour Boston ou Milwaukee.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci bien pour votre fidélité à VOA Afrique. Comme promis, retour sur la visite d'État du président français aux États-Unis. Un déplacement qui prend fin ce mercredi. Emmanuel Macron a prononcé tout à l'heure un discours devant le Congrès américain après avoir été accueilli par une standing ovation de 3 minutes de la part des élus du Sénat et de la Chambre des représentants. Il a abordé la sécurité, notamment l'Iran, mais aussi le climat et la relation entre les États-Unis et la France. Nicolas Pineau a suivi pour nous cette intervention du chef de l'État français.
Ah oui, Emmanuel Macron a été longuement ovationné à son arrivée au Congrès américain. Sous les yeux de Mike Pence, le vice-président américain, et Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, le président français a mis en avant la longue relation d'amitié et d'entraide entre les deux pays, et ce depuis la déclaration d'indépendance américaine de 1776. Sur les questions d'actualité, Emmanuel Macron a redit son intention d'obtenir un nouvel accord sur le nucléaire iranien, mais surtout Macron affirme, comme jamais auparavant, que Téhéran ne doit jamais obtenir la bombe atomique.
Nous devons donc plus que jamais être stricts avec ces pays qui cherchent à acquérir la bombe nucléaire. En ce qui concerne l'Iran, notre objectif est clair. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Elle n'en disposera ni maintenant, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Jamais.
Au titre de la coopération entre les deux pays, le président français a salué la lutte contre le terrorisme, notamment dans le Sahel où la France intervient dans le cadre de l'opération Barkhane.
Au Sahel où des groupes terroristes ont une emprise sur un territoire presque aussi vaste que l'Europe, des soldats et des militaires français et américains font face aux mêmes ennemis et aux mêmes risques. Ici, je voudrais rendre hommage aujourd'hui aux militaires américains qui ont perdu la vie à l'automne, ainsi que à leurs camarades français qui sont morts en début d'année au Mali. Je crois que mieux que quiconque, nos hommes savent ce qu'est l'amitié et la coopération entre pays.
Devant le Congrès américain, Emmanuel Macron a dénoncé la tentation de nationalisme et d'isolationnisme et il a demandé aux États-Unis de réinventer le multilatéralisme car selon lui, une guerre commerciale entre alliés n'est pas cohérente. Après le retrait américain sur l'accord de Paris sur le climat initié par Donald Trump, Emmanuel Macron a réaffirmé devant les élus américains qu'il espérait un retour des États-Unis car selon lui, il n'y a pas de plan B.
Quel est, honnêtement, le sens de notre vie si nous travaillons, si nous vivons en détruisant la planète et que nous sacrifions l'avenir de nos enfants? Quel est alors le sens de notre vie si nos décisions conscientes sont de réduire encore les possibilités pour nos enfants et nos petits-enfants?
Le président français achève sa visite d'État à Washington par une rencontre avec les jeunes d'une université de la ville avant de regagner Paris cette nuit.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce mercredi à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Comment protéger les écoles contre l'insécurité ? enlèvement d'élèves au Nigeria, école occupée par des groupes armés en Centrafrique, établissement scolaire attaqué dans l'est de la RDC et le nord du Burkina Faso subit le même sort. Selon vous, que faire pour protéger les élèves? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Cap de nouveau sur Madagascar, où l'opposition est une nouvelle fois descendue dans la rue. Elle a saisi la Cour constitutionnelle pour demander la destitution du président qu'elle accuse de violation des lois. Sur la raison de cette protestation, Raissa Gironda a joint Lovasoa Rabar, journaliste indépendante dans la Grande Île.
Presque toutes les manifestations qui étaient envisagées par l'opposition avaient été interdites. Et donc, pour la première fois, les manifestations de l'opposition peuvent se tenir. Elles ont pu se tenir après les événements de samedi dernier, du premier jour de manifestation, où des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont fait 2 morts et une quinzaine de blessés.
Mais donc l'opposition, là, elle a saisi la Cour constitutionnelle. Elle demande donc la destitution du président. Qu'est-ce qu'on reproche au président?
Selon les députés responsables du mouvement qui ont déposé justement la requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle ce mercredi matin, la requête repose justement sur la violation de la Constitution, entre autres le fait que le président, plus de 4 ans après son accession au pouvoir, n'a toujours pas mis en place la Haute Cour de justice. Alors la Haute Cour de justice, selon la Constitution, devrait être mise en place au plus tard 12 mois après l'accès au pouvoir du président de la République. Ça a déjà été le motif d'une procédure de déchéance en 2015, mais la Haute Cour constitutionnelle a rejeté la requête des députés.
Mais est-ce que l'opposition peut réellement se reposer sur la Cour constitutionnelle?
En principe, la Constitution dit que c'est la Haute Cour de justice qui doit être saisie toutes les fois que le président est mis en accusation pour notamment justement la non-mise en place de la Haute Cour de justice qui peut être vue comme une forme de violation de la Constitution. Mais en 2015, la Haute Cour de justice, elle n'est pas encore mise en place, justement, et c'est l'objet de la requête. Mais en 2015, les députés avaient déjà mis en branle cette procédure de déchéance et ils ont saisi la Haute Cour constitutionnelle. Et la Haute Cour constitutionnelle, à l'époque, s'est déclarée compétente pour examiner le dossier et pour traiter de l'affaire. Mais ce qui s'est passé à la fin, c'est que la HCC s'est dit compétente, mais elle a rejeté la requête.
Certains parlent d'une action de communication, d'autres de coup d'État. Qu'est-ce que vous répondez à ces commentaires?
Je dirais qu'il y a une volonté manifeste d'aller au-delà de la démarche constitutionnelle. Moi, je dirais plutôt d'un coup de communication parce qu'il faut bien que jusqu'à ce qu'il y ait une solution au conflit préélectoral qui se profile, il faut bien que l'opposition occupe aussi le terrain.
La malgache Lovasoa Rabar, qui est une journaliste indépendante, était en ligne d'Antananarive.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Tanzanie, les blogueurs et autres animateurs de plateformes en ligne ont 2 semaines pour se faire enregistrer auprès du gouvernement. Ceux qui seront pris à défaut devront payer une amende ou aller en prison. Un reportage de Mohamed Youssouf du bureau VOA de Nairobi, rendu ici par Idriss Fall.
La nouvelle loi tanzanienne cible les plateformes en ligne, les blogs, podcasts et vidéos postées sur YouTube et d'autres sites internet. Le gouvernement dit qu'il va surveiller ces plateformes pour des discours de haine, des contenus obscènes, des menaces à la sécurité nationale ou des risques de troubles à l'ordre public. Maxence Melo est cofondateur du forum Jami, un site web qui dénonce la corruption en Tanzanie. Il a déjà été arrêté plusieurs fois en 2015.
Nous avons subi beaucoup de pression ces dernières années parce que les autorités veulent connaître qui sont nos lanceurs d'alerte et nous disons que c'est impossible.
Le porte-parole du gouvernement tanzanien s'est refusé à tout commentaire. Vendredi dernier, l'autorité de régulation de la communication a décidé que tout gérant de site Internet doit payer $900 pour obtenir une licence. L'agence nationale menace de suspendre ou d'enlever de force tout contenu jugé être en violation de la loi. Les contrevenants écoperont d'une amende et risquent jusqu'à 1 an de prison. Reporters sans frontières a dénoncé les frais d'acquisition d'une licence comme exorbitants et qualifié la nouvelle loi de dernier coup contre la liberté d'expression en Tanzanie. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président John Magufuli s'est dressé quelques priorités comme la lutte contre la corruption, l'absentéisme chez les fonctionnaires, mais il est resté inflexible face à toute critique de l'action gouvernementale. Des journaux ont été fermés ou suspendus. En février, 2 opposants ont été jetés en prison après avoir été accusés d'avoir insulté le chef de l'État. Henry Maina, de l'ONG Article 19, appelle à la retenue.
Il y a un grand débat sur comment réguler les réseaux sociaux, mais réguler ne signifie pas criminaliser les réseaux sociaux.
En Tanzanie, les blogueurs et administrateurs de sites Internet ont jusqu'au 5 mai pour se faire enregistrer et leur licence doit être renouvelée tous les 3 ans. Des activistes tanzaniens vivant à l'étranger ont lancé un appel à manifester ce jeudi contre le régime. Le gouvernement leur répond que tout manifestant subira de graves conséquences. Le commandement régional de la police à Arusha a déjà annoncé 7 arrestations, essentiellement des étudiants, accusés de propager sur les réseaux sociaux des appels à manifester demain, date d'anniversaire de l'union entre la Tanzanie continentale et l'archipel de Zanzibar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le dernier classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières est tombé ce mercredi. Selon RSF, le fait marquant demeure l'accroissement des sentiments haineux à l'encontre des journalistes. Un fait qui est résumé dans l'intitulé de ce classement « La haine du journalisme menace les démocraties ». Pour de plus amples détails, Bagassi Koura, adjoint à Paris, Catherine Monnier, rédactrice en chef adjointe à RSF.
Cette année a été marquée notamment par la haine qui a été libérée contre les journalistes et on en constate les effets pervers à travers le monde. On constate que l'hostilité envers les médias aujourd'hui n'est plus l'apanage des pays autoritaires comme par exemple la Turquie ou l'Égypte qui ont eux littéralement sombré, on peut dire, dans une véritable médiaphobie où les journalistes sont de façon de plus en plus courante accusés tout simplement de terrorisme. Alors, où on constate cette libération de la haine ? On la constate d'abord aux États-Unis, dans le pays du premier amendement, où pas une semaine, voire pas une journée ne se passe finalement sans que le président Trump s'exerce, alors sur Twitter ou d'une façon ou d'une autre, s'exerce au média bashing au point de qualifier les principales chaînes de télévision du pays comme ennemis du peuple.
Quand le président américain fait des sorties, par exemple, dénonçant des médias, vous pensez que ça risque de ne pas se limiter juste à des menaces verbales ?
Tout à fait, et c'est ce que l'on constate. C'est tout un symbole. Quand le champion de la liberté de la presse, les États-Unis, c'est quand même le pays du premier amendement qui garantit la liberté de la presse dans la Constitution, quand le champion donc de la liberté de la presse la bafoue et la maltraite autant, cela légitime la répression des pays autoritaires. Si vous voulez, la notion floue de fake news dont le président américain Donald Trump use et abuse en permanence est en fait une véritable aubaine pour des gouvernements qui cherchent tout simplement à museler des voix critiques.
Alors, concernant le continent africain, qu'est-ce qu'on peut retenir ?
Alors, ce que l'on peut retenir dans cette édition 2018 pour le continent africain, c'est d'abord que l'on a, aussi bien dans les baisses les plus notables et les hausses les plus notables, on retrouve 2 pays du continent. Du côté des baisses, on a la Mauritanie. C'est un des pays qui est aujourd'hui à la 72e place et qui perd 17 places dans ce nouveau classement. C'est la plus forte régression du continent et cela est dû notamment à l'adoption en 2017 d'un nouveau projet de loi qui punit de mort l'apostasie et le blasphème, même en cas de repentir. Donc ça, c'est un cas qui nous inquiète énormément. Après, on a aussi une bonne nouvelle sur le continent. On a la plus belle hausse, si je puis dire, la plus grosse hausse du classement. C'est la Gambie qui gagne 21 places et qui se situe désormais à la 122e place. Le pays s'est donc caractérisé avec son nouveau président qui a promis l'adoption d'une loi moins restrictive sur la presse et l'inscription de la liberté d'expression dans la Constitution. C'est pour nous un très bon signe. C'est l'espérance en fait qu'une nouvelle ère politique commence, que de nouvelles habitudes vont être prises. Et donc c'est assez porteur d'espoir.
Catherine Monet, rédactrice en chef adjointe à RSF. Le Monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. C'était notre ami Dan Crafton qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Mais s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs, car dans quelques petits instants, vous retrouvez Henri Francisque pour un nouveau tour de l'actualité. À très bientôt. Take care.